Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
L'expédition de Monsieur de la Pérouse, qui fut ce grand explorateur? C'est le thème de l'émission Un jour dans l'histoire, présentée par Anne Sotti de Chalon, qui reçoit donc aujourd'hui Madame Catherine Gaziello, historienne, responsable de la médiathèque de Poitiers.
Un jour dans l'histoire, et oui, un jour, j'aurais pu en prendre plusieurs, quatre. 1er août 1785, 15 mars 1788, 21 janvier 1793, date connue bien sûr de tous les Français, date de l'exécution de Louis XVI, Louis XVI se serait exclamé, juste avant de monter sur l'échafaud, « A-t-on des nouvelles ?» Des nouvelles de qui ? De Monsieur de la Pérouse. Eh bien, Monsieur de la Pérouse, nous allons en parler de lui, de son expédition, et vous allez voir que l'Académie est associée étroitement à cette expédition qui est restée extrêmement célèbre. On aurait pu aussi citer une autre date, le 14 février 1791, c'est la date à laquelle l'expédition de Monsieur de la Pérouse et la Pérouse lui-même est portée disparue. Portée disparue, il l'est depuis maintenant, 220 ans à peu près. Hein. Catherine Gaziello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la médiathèque de Poitiers et vous êtes la seule historienne à avoir fait une thèse sur la Pérouse. La Pérouse qui est revenue récemment dans l'actualité à la faveur d'une expédition qui a été menée sous les auspices de l'association Salomon, une association néo-calédonienne qui travaille avec acharnement depuis plusieurs décennies à élucider l'énigme La Pérouse. Et on a eu l'occasion dans les médias d'entendre parler de nouveau de cette figure nationale qui n'est pas très connue, enfin qui est connue des historiens, mais vous êtes la seule personne à avoir vraiment consacré une étude approfondie à La Pérouse. Comment ça se fait ?
Écoutez, moi quand on m'a proposé de faire ma thèse d'école des chartes sur La Pérouse, j'ai été très étonnée, j'ai eu la même réflexion que vous, je me suis dit mais mon Dieu, y a-t-il vraiment quelqu'un qui a encore des choses nouvelles à dire sur La Pérouse ? Et M. Taïmide, qui à l'époque était archiviste de la marine, m'a dit effectivement il y a toujours des choses à découvrir. La preuve, c'est que l'association Salomon a effectivement découvert de nouvelles choses. Et bon, il se trouve que j'ai été la seule à accepter ce sujet et à voir effectivement qu'il y avait beaucoup de choses à redécouvrir ou plutôt à dire à propos de la préparation du voyage, puisque c'est essentiellement là-dessus que j'avais travaillé. Mais finalement, savoir la préparation, ce qui s'est passé pour la préparation du voyage aide à comprendre ce qui s'est passé ensuite et à identifier notamment ce qu'on a trouvé après.
Est-ce qu'on sait tout sur cette préparation du voyage ? Parce que l'épilogue reste encore à écrire. Hein. La Pérouse a disparu sur l'île de Vanikoro, dans le Pacifique Sud, en gros 2000 km au nord de la Nouvelle-Calédonie. Sait-on vraiment... Votre travail a apporté une contribution essentielle à la préparation de ce voyage, à l'histoire. On a à peu près tout écrit maintenant alors.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore des choses à redécouvrir et que justement, j'aimerais bien que quelqu'un, puisque moi je n'aurais pas le temps de le faire probablement, que quelqu'un d'autre approfondisse ce qu'on sait de la préparation du voyage, parce que maintenant on sait, j'espère, grâce à ma thèse, où trouver les documents les plus précis possibles sur les instruments scientifiques qui ont été achetés, sur la préparation des vaisseaux, sur l'identité des gens. Mais il y a toujours d'autres choses à découvrir. Là, par exemple, lorsque l'association Salomon, lors de la précédente expédition, à retrouver un squelette presque intact. Si j'avais pu approfondir un certain nombre de choses, de connaissances que nous avions des gens qui étaient embarqués, nous aurions peut-être pu identifier à coup sûr vraiment la personne que nous avons trouvée. Donc il y a toujours des choses à redécouvrir même sur la préparation du voyage.
Juste en contrebas, la statue de Condorcet, des archives ici même à l'Académie. Vous y êtes venu à l'époque ?
Oui, à l'époque, effectivement. Je me souviens d'avoir dépouillé des archives aux archives de l'Académie des sciences. Et également, j'ai travaillé à la bibliothèque de l'Institut aussi. Il y a des documents sur la Pérouse dans les archives de l'Académie des sciences. L'Académie a été tout à fait associé au voyage de la Pérouse. Condorcet, à l'époque, effectivement, sa statue est là, était secrétaire perpétuel de l'Académie. Donc, c'est tout naturellement à lui qu'on a demandé de faire travailler l'ensemble de l'Académie, les différentes classes de l'Académie, qui est organisée en classe, bien sûr, sur la préparation du voyage de la Pérouse, afin que les académiciens, qui étaient ce que le monde savant comptait de plus prestigieux, l'élite, donc, de nos scientifiques, afin qu'ils puissent donner des instructions précises sur ce qu'il y avait à chercher et à faire. Ceci dit, effectivement, Condorcet était la personne avec laquelle on avait le contact directement. D'après ce que j'ai pu trouver dans les archives, moi j'ai trouvé un rôle actif de Lavoisier plutôt dans l'organisation du travail des différentes classes de l'Académie. puisque c'est...
Plus Lavoisier que Condorcet.
Voilà, j'ai trouvé plus de travail de Lavoisier dans ces eaux-là. D'autre part, certains membres de l'Académie avaient déjà été associés dès les prémices du voyage, avaient été associés de beaucoup plus près que tous les autres. Je pense en particulier au chevalier de Borda qui était membre de l'Académie des sciences, donc qui s'est occupé pour l'Académie de rassembler toutes les propositions de la classe de géométrie. Mais je sais que par ailleurs, il avait été associé dès le début aux premières discussions entre le roi, le ministre de la Marine, le directeur des ports et arsenaux pour organiser le voyage de la Pérouse. C'est-à-dire que non seulement il a travaillé sur la préfiguration, si vous voulez, des approvisionnements, des vivres, etc., mais également sur les instruments scientifiques qui étaient sa spécialité, puisqu'il avait lui-même inventé et fait construire le cercle de Borda, donc qui était un instrument nautique qui permettait de mesurer la longitude, latitude. D'autre part,
un point capital, on y reviendra.
Un point capital, tout à fait, on y reviendra. C'est lui également qui a suggéré de recruter comme astronome de l'expédition les deux meilleurs astronomes qu'on avait sous la main, c'est-à-dire le Pote d'Agelay, qui était une famille d'horlogers d'ailleurs, qui était connue, et qui était avec son collègue Monge, les deux professeurs de l'école militaire. Donc Monge... lui a échappé au désastre final de l'expédition puisqu'il était affecté d'un mal de mer terrible qui a fait qu'on a dû le débarquer dès la première escale de Tenerife.
Cette expédition, donc 220 marins, aucun ne survivra à première vue parce qu'il reste encore peut-être à élucider certains aspects sur cette île de Vanikoro. Il y aurait pu y avoir des survivants au moment où D'Entrecasteaux notamment est passé près de l'île où il s'est agi d'essayer de retrouver Monsieur de la Pérouse et les siens. L'Académie a été associée étroitement peut-être, mais pas au premier chef. C'est d'abord une affaire de militaires, de marins.
Oui, au point de départ de ce qu'on trouve effectivement au point de départ de l'expédition de la Pérouse, c'est une expédition commerciale. C'est-à-dire que c'est comme un roman en fait. C'est un aventurier, on peut dire ça comme ça, d'origine hollandaise qui avait beaucoup travaillé. Voilà, c'est ça. Qui avait beaucoup travaillé dans ce qu'on appelait les colonies d'alors en Inde, etc. S'était intéressé de près au voyage de Cook, au troisième voyage de Cook, qui effectivement avait alerté sur l'existence d'une possibilité commerciale. En allant chercher des peaux de loutre sur la côte nord-ouest de l'Amérique et en les revendant aux Chinois qui souhaitaient acquérir des fourrures de prix. Et éventuellement, on pouvait compléter ce commerce en rachetant des marchandises de Chine pour les revendre en Europe. Donc, c'est le troisième voyage de Cook qui était en cause. Il se trouve que cet homme qui s'appelait Boltz a connu les résultats du voyage de Cook parce qu'il était présent lors de la dernière escale de Cook avant que ses vaisseaux rentrent en Angleterre. Donc bien avant la publication du dernier voyage de Cook qui a été faite par un de ses seconds et qui n'a été faite qu'en 1784, Boltz en a parlé autour de lui et il a reçu une gratification pour des communications utiles au service de la part du ministre de la Marine en France en suggérant effectivement d'explorer cette piste. Donc à l'origine, il avait proposé de faire une expédition commerciale appuyée par des vaisseaux du roi. Et c'est Fleurieu, le directeur des ports et arsenaux, qui a considéré qu'il était dangereux de faire ce genre de choses parce qu'un vaisseau commercial appuyé par des vaisseaux du roi risquait de nous créer des incidents diplomatiques. Donc il a dit « camouflons les choses sous la forme d'un voyage scientifique, si vous voulez ». Et que ce soit une mission d'exploration qui nous permette de savoir si ce commerce est réellement intéressant. On prendra nos renseignements et on fera plus tard des expéditions commerciales si c'est nécessaire ou si c'est vraiment utile. Donc à l'origine, c'est ça. Mais Fleurieu était quand même à l'origine un officier savant qui s'intéressait beaucoup, qui avait fait beaucoup d'expéditions scientifiques uniquement pour tester les horloges marines qu'on avait faites. Donc il a aussi longtemps été responsable du dépôt des cartes et plans de la marine, donc l'exploration scientifique, géographique l'intéressait aussi. Donc il a assez vite fait dériver ce projet uniquement commercial vers un projet d'exploration beaucoup plus général. Donc comme il avait travaillé effectivement avec Borda, etc., ça a permis de donner une tonalité différente au voyage. Ensuite, c'est devenu presque entièrement un voyage scientifique, bien sûr. De toute façon, on ne peut pas... séparer le commerce de la politique, de la diplomatie et également du travail scientifique. La science n'est jamais gratuite, de toute façon, d'une certaine façon. Et puis, là, il y a une question de prestige et de rivalité franco-anglaise qui est tout à fait visible. On n'avait rien à présenter face aux trois voyages de Cook, c'est vrai. Et les voyages de Cook étaient, eux aussi, des explorations, c'est vrai, scientifiques, mais essentiellement aussi pour voir quelles possibilités d'implantation militaire, éventuellement, mais aussi commerciale, on pouvait avoir.
Comment expliquer le retard de la France dans ce domaine par rapport aux Anglais ?
Le retard de la France s'explique par beaucoup de raisons, à mon avis. D'abord, on a eu beaucoup de mal à remonter une marine digne de ce nom, si vous voulez, capable de rivaliser avec la marine anglaise. Il y a eu un énorme effort fait pour la formation des officiers, également pour les recrutements, pour les conditions dans lesquelles on recrutait nos matelots. Il y a eu d'autres efforts qui ont été faits. Bon, il y a eu beaucoup de guerres, etc. On peut considérer que ce qui prouve que vraiment les efforts faits pour développer la marine française et lui donner plus de force, si vous voulez, commencent à porter leurs fruits au moment de la guerre d'indépendance américaine. Puisque sans l'appui de la marine française, il est probable que les Américains auraient eu beaucoup plus de mal à l'emporter sur les Anglais, bien entendu.
Il a fallu convaincre Louis XVI, ou bien est-il à l'origine de ce projet ? Quand l'idée est-elle née précisément dans l'esprit de Louis XVI ?
Je pense que, a priori, je pense que les choses ne sont pas très différentes de ce qu'on voit se faire de nos jours, c'est-à-dire que nous avons des ministres, des fonctionnaires également, des administrateurs, des techniciens, des scientifiques qui font des propositions au président de la République. C'est un peu la même chose qui se passe d'une certaine façon. Mais Louis XVI était intéressé. Tout le monde sait qu'il s'intéressait à la géographie. Je pense que quand on lui a proposé ça, ça lui a paru intéressant. Il a donné des conseils qui étaient des conseils de bon sens et de personnes qui étaient quand même averties des problèmes, puisque il a fait remarquer que le programme d'exploration scientifique lui paraissait considérable, que d'autre part, certaines fois, il lui semblait que l'époque à laquelle on avait prévu, par exemple, de passer le Cap Horn lui paraissait mal calculée, parce que c'était une époque difficile où les vents sont forts, les mers sont dangereuses. Donc, il fallait essayer de ne pas mettre trop de choses dans le programme, de bien serrer les questions, mettre des choses qui étaient vraiment prioritaires et d'éviter de se trouver dans des parages dangereux à des moments où c'est le plus difficile.
À aucun moment il n'a été question de dissocier l'expédition, d'en faire plusieurs, pour diviser les risques ?
Non. Au contraire, à cette époque-là, on essaie d'éviter justement la séparation. Ça se sent très bien dans les différentes expéditions scientifiques qui ont eu lieu avant. On a pris au début, par exemple, des vaisseaux qui n'avaient pas le même tonnage, qui n'avaient pas non plus les mêmes caractéristiques navigantes. Donc on se retrouvait avec des risques de se trouver séparés où un des vaisseaux était obligé d'attendre l'autre, on se fixait des rendez-vous et on voit effectivement à un moment donné Cook est séparé de sa conserve et on voit qu'ils sont extrêmement inquiets. Il vaut mieux naviguer à deux parce que vous pouvez vous porter secours, vous pouvez plus facilement renforcer l'autre navire quand l'un a des problèmes, etc. Donc on essayait de faire en sorte que les deux navires soient ensemble, toujours. Et puis, je pense qu'on n'avait pas mesuré, effectivement, que le programme, même en enlevant un certain nombre de choses, continuait à être vraiment démesuré. Ceci dit, leur excuse pour n'avoir pas été très réaliste, c'est, me semble-t-il, le fait aussi que Cook avait donné l'exemple d'une réalisation. Cook était il a eu beaucoup de chance, certainement, mais c'était un véritable génie de l'exploration et de la navigation. Et ce qu'il a accompli dans ces trois voyages, je crois que personne ne pouvait aligner une performance pareille en face. Donc, on avait l'impression que c'était faisable, puisque Cook l'avait fait par trois fois, quand même, trois circumnavigations. Donc, on s'est dit que la Pérouse pouvait bien faire ça. Il s'agissait de compléter ce que Cook avait fait.
Et la Pérouse partait avec les mêmes armes, les mêmes atouts ?
Il avait même plus
d'atouts. Les expéditions se ressemblaient ? Plus d'atouts.
Il avait même plus d'atouts parce qu'il avait les récits des voyages de Cook pour l'aider. Il avait également, pour lui servir de base, toutes les remarques qu'il avait pu faire à partir de là, savoir par exemple qu'il fallait des vaisseaux tout à fait semblables, savoir ce qu'il fallait prévoir comme approvisionnement, les risques à certains endroits. Puis il avait une cartographie bien plus précise puisque Cook avait quand même beaucoup avancé.
Alors quelle a été la recette de Cook ?
Je ne sais pas quelle était sa recette, justement.
Son flair, son génie, peut-être ?
Je pense, oui. Et puis c'était quelqu'un d'extrêmement prudent aussi. Tous les bons navigateurs sont toujours beaucoup plus prudents que tous les autres.
La Pérouse aurait manqué de prudence ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'on n'avait pas l'expérience. Cook est quand même quelqu'un qui a commencé par naviguer dans les eaux anglaises d'abord. Il a travaillé pour la marine commerciale, c'est quelqu'un qui n'est pas un noble ni rien du tout, et il a commencé à naviguer très jeune, à apprendre vraiment la base et le début. Bon, la Pérouse a également été garde de la marine très jeune, mais enfin, c'était pas lui qui était en charge des questions de navigation dès le début, si vous voulez. Puis bon, il a été surtout dans la marine de guerre dès l'origine, fait prisonnier assez jeune, blessé, etc.
Catherine Gazziello, responsable de la médiathèque de Poitiers, historienne, est l'invitée de l'émission Un jour dans l'histoire aujourd'hui, présentée par Anne Sotti de Chalon. Nous parlons de Monsieur de la Pérouse. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales. Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie. L'expédition de Monsieur de la Pérouse, qui fut ce grand explorateur? Catherine Gazziello, historienne responsable de la médiathèque de Poitiers, répond à Anne Sotti de Chalon.
Un jour dans l'histoire, 1er août 1785. Alors je cite de nouveau cette date, c'est la date à laquelle s'en va l'expédition La Pérouse de Brest. La Pérouse, capitaine de vaisseau, CV, qui dispose d'un beau CV, on peut faire un jeu de mots,
oui,
là sur ce point,
oui.
C'était vraiment l'homme de la situation.
Je
il n'y a pas
crois,
eu
oui.
de doute, de rivalité, il n'y avait pas de personne en concurrence.
Alors dans les mémoires de l'époque, ce qui est l'équivalent si vous voulez de la presse aujourd'hui, des bruits ont couru en disant mais non, c'est pas lui qu'il aurait fallu choisir et il était question de prendre plutôt celui qui a été son second, celui le capitaine de l'Astrolabe, Fleuriot de Langle. J'ai retrouvé ce bruit effectivement dans les mémoires de l'époque, dans aussi les récits qu'en ont fait certains. Donc visiblement c'est un bruit qui a été assez répandu. Moi je n'ai trouvé rien comme trace dans les archives qui laisse à penser qu'on ait hésité entre plusieurs personnes. Très vite c'est le nom de la Pérouse qui apparaît. Moi je pense qu'on a eu de bonnes raisons de le choisir plutôt que Fleuriot de Langle, et je comprends aussi pourquoi on a pensé que c'était Fleuriot de Langle qu'il aurait fallu choisir à l'époque. C'est pas du tout le même profil, pourtant ils étaient amis, ils ont même navigué ensemble, et je crois que la Pérouse avait une totale confiance en Fleuriot de Langle et c'était réciproque.
Ils n'auraient même pas accepté de voyager l'un sans l'autre d'ailleurs, hein, semble-t-il.
Oh, je pense, oui, je pense. De toute façon, les choses se sont passées comment? Une fois que la Pérouse a été choisie, on lui a demandé de choisir avec qui il voulait naviguer. Ça se faisait très très couramment. Il a tout de suite choisi Fleuriot de Langle. Ça n'a pas posé de problème, ça a été immédiat. Et ensuite, chacun a choisi les officiers avec lesquels il voulait naviguer. Et on a même choisi parmi les matelots, effectivement. Je pense qu'on a choisi la Pérouse parce qu'il y avait de bonnes raisons pour ça. D'abord, il avait quand même une expérience très jeune de la navigation. Également, c'était un homme qui avait une quarantaine d'années, c'est un homme dans la force de l'âge, comme Fleuriot de Langle est un tout petit peu plus jeune. C'était quelqu'un aussi à qui on avait confié la dernière expédition qu'il avait faite, c'était l'expédition à la baie d'Hudson, où on l'avait chargé d'aller détruire les établissements des Anglais, qui étaient des établissements d'exploitation des fourrures. Donc c'était la côte nord-est de l'Amérique, si vous voulez. Donc il est parti pour cette expédition, c'était en plein hiver, époque la plus difficile. On n'avait pas de carte à l'époque de ces zones-là, qui étaient presque inconnues pour nous. Seuls les Anglais avaient des cartes assez précises. Nous, on n'avait rien du tout. Il fallait profiter de l'effet de surprise. C'est pour ça qu'on avait choisi une époque de l'année particulièrement difficile. Et donc, il est parti avec en conserve Fleuriot de Langle. Il a fallu se débrouiller pour trouver le point d'atterrage qui était le plus commode. Le plus proche aussi. Il avait avec lui un ingénieur qui a dû tracer un chemin à travers une zone inconnue pour essayer de trouver les établissements. Donc, c'était Monneron, qui d'ailleurs l'accompagne dans son voyage aussi. Donc, ils ont profité de l'effet surprise. Ils ont aussi dû discuter avec les Indiens d'Amérique pour trouver de l'aide, pour les guider, etc. Et lorsqu'ils ont trouvé les établissements, l'établissement de la baie d'Hudson, ils les ont détruits comme c'était l'instruction de la Pérouse. Et ensuite, il a fallu que la Pérouse prenne des décisions avec personne pour lui dire quoi faire. C'est-à-dire qu'il avait montrer qu'il était capable de naviguer dans des conditions extrêmement difficiles et également d'aller dans des terres qui étaient, c'était quasiment une expédition à la découverte. Que d'autre part, il avait mené à bien les instructions qui lui avaient été données. C'est-à-dire qu'on lui avait dit, vous irez là-bas et vous détruirez les établissements et puis vous reviendrez le plus vite possible. Donc il a fait exactement ce qui lui avait été donné comme mission. Ce qui n'avait pas été le cas, par exemple, de Kerguelen, qui n'avait pas respecté ses instructions. Donc là, c'était un bon point pour la Pérouse, si vous voulez. Il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'il a dû prendre des décisions tout seul, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé ayant détruit, donc en plein hiver, les établissements de ces gens-là, puisqu'il en avait reçu l'ordre, mais il s'est posé la question, je dois les détruire, je dois détruire leur stock, etc. Mais qu'est-ce que je fais des gens perdu en plein hiver, sans abri ni rien du tout. Donc,
Il
s'est montré plein d'humanité et d'intelligence, puisqu'il leur a dit, bon, ben, je vous laisse ce qui est nécessaire pour vous permettre de survivre jusqu'à la saison prochaine pour qu'on puisse vous secourir et vous rapatrier, etc., pour qu'ils disparaissent pas. Et il a dit d'autre part qu'il a donné le maximum de ce qu'il pouvait laisser comme fusils, poudre, etc., aux Indiens qui était sur place et qui vivait à proximité des établissements en question, parce qu'il a dit ces Indiens ne savent plus chasser par d'autres moyens, puisque maintenant ils sont habitués à avoir nos fusils à nous, etc. Donc j'ai fait le maximum pour leur donner à eux aussi la possibilité de survivre. Donc non seulement il a pensé aux Anglais qu'il avait laissés sur place, mais également aux populations indigènes qui en dépendaient. Donc il s'est montré plein d'humanité et d'intelligence. Ça s'est su lorsqu'il est rentré en Europe, et même les Anglais ont rendu hommage au fait qu'il avait quand même non seulement rempli bien sa mission, mais en plus veiller à ce que ce soit au moindre frais des gens du point de vue humain.
Et donc il était respecté, y compris par nos
il
premiers adversaires.
Il était respecté, voilà. Et bon, si vous voulez, donc on se trouvait avec quelqu'un, à mon avis le choix était tout à fait clair, on se trouvait avec quelqu'un qui était expérimenté, quelqu'un qui était en bonne santé, c'est important aussi, quelqu'un qui avait fait la preuve, qui était capable de mener à bien une expédition difficile dans des conditions vraiment de découverte, quelqu'un aussi qui était capable de bien gérer une situation avec des gens qu'on connaît peu, en les traitant avec humanité, ce qui est dans l'air du temps, et également quelqu'un de capable de régler avec diplomatie des questions difficiles. Là, il allait, avec ce voyage d'exploration, on lui donnait mission d'aller relâcher dans des ports qui étaient aux mains des Portugais, des Espagnols. Bon, on était théoriquement alliés aux Espagnols, bien sûr, puisque c'était depuis le pacte de famille, c'était nos alliés. Mais il n'empêche qu'on aime bien savoir ce que font les alliés, on soupçonne un peu. Bon, d'ailleurs, c'est dit clairement dans les instructions secrètes de la Pérouse, c'est dit clairement. Les colonies espagnoles, elles sont très intéressantes parce que elles sont pas très bien protégées et elles sont lucratives éventuellement. Donc, on pourrait peut-être voir dans quel état elles sont. Donc, la Pérouse était quand même capable de gérer bien la diplomatie. C'est quelqu'un avec une personnalité chaleureuse, avec du bon sens aussi. Moi, je pense que le choix était bien clair.
Un angoissé, dit-on ?
Moi, je crois pas que ce soit un angoissé. Je le sens pas tellement dans toute sa correspondance ni rien. Un enthousiaste, certainement. Mais ça n'allait pas jusqu'à l'imprévision ou le manque de précaution et de prudence. En tant que navigateur, c'était quelqu'un de prudent. Moi, je le sens pas très angoissé. Certainement, au début, quand la première lettre qu'il envoie à sa femme en disant « Je suis toujours dans la même incertitude sur mon sort » prouve qu'il n'était pas encore choisi. Prouve qu'il n'était pas encore choisi, donc il devait effectivement s'en inquiéter, mais dans aucune de ses lettres au cours du voyage, on ne voit et qu'est-ce que nous allons devenir et comment ça va se passer. Chaque fois, il explique ce qui se passe. Il y a des choses assez intéressantes dans ce qu'il dit. Il décrit les gens, souvent avec humour. Il explique comment il est reçu. Il attache beaucoup d'importance à la réception qu'il reçoit. Par exemple, quand il s'arrête à Madère, il dit qu'il est reçu par le consul à Madère, que le consul a deux nièces qui sont tout à fait charmantes. Délicieuse petite jeune fille avec un teint d'anglaise, enfin bref. Donc il regarde les gens autour de lui, il s'intéresse à eux, il note quand il est bien reçu, mal reçu, etc. Il n'anticipe pas trop sur l'avenir ni rien.
Oui, ce n'est pas du tout le caractère bourru, autoritaire d'un chef militaire,
non.
Stricto sensu.
Et puis rien dans ses lettres, ni même dans ses lettres administratives, si vous voulez, parce qu'il écrit au directeur des ports et arsenaux, il rend compte de ce qu'il fait, on ne sent un langage administratif, si vous voulez, en disant, bon, il dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, il rend compte du travail des gens. C'est la même chose avec les gens avec lesquels il est embarqué. Il note des choses sur le caractère des gens. C'est-à-dire, il dit effectivement...
Très psychologue,
par exemple,
alors.
Voilà. Et puis, par exemple, quand Monge est débarqué parce qu'il a le mal de mer, il dit, je suis obligé de me séparer de Monsieur Monge. C'est avec beaucoup de regret, car c'est un homme délicieux, charmant et agréable. Mais là, vraiment, sa santé ne pourrait pas résister. Il est bien dommage que ce ne soit pas quelqu'un d'autre. La Manon, en l'occurrence, qui a eu le mal de mer, qui soit obligée de débarquer parce que lui a un caractère impossible, il n'y a que lui qui a le droit de parler, etc. Donc, il note effectivement les gens à qui il a affaire, les gens actifs, les gens réfléchis, etc. Il parle du jardinier aussi. Il s'intéresse beaucoup aux plantes et au travail du jardinier. Le jardinier était un... c'était pas un savant, hein. Il était juste en tant que technicien, on dirait maintenant, embarqué pour prendre soin des plantes qu'on avait embarquées, également pour les planter régulièrement dans les endroits qu'on allait atterrir. Donc, mais il s'intéresse à son travail. Par exemple, le jardinier n'avait pas l'impression que Fleuriot de Langle, sur l'autre navire, il devait embarquer sur l'Astrolabe. Il avait l'impression que Fleuriot de Langle n'était pas très intéressé par ses plantes, parce qu'il lui a dit à plusieurs reprises « Vos plantes me gênent, virez-les de là ». En gros, c'était ça. Donc, il avait dit à la Pérouse, c'est un peu ennuyeux parce que je sais pas trop où mettre mes plantes, etc. Et la Pérouse a dit, dans ce cas-là, je vous prends sur la boussole et puis on va bien s'arranger.
Alors l'astrolabe, c'est Fleuriot de Langle, un caractère complètement différent.
Oui, mais je comprends aussi qu'on ait pensé qu'il était peut-être à choisir plutôt que la Pérouse, parce que Fleuriot de Langle faisait partie des gardes du pavillon. Donc c'est déjà l'élite de l'élite, si vous voulez. Donc on a le corps des gardes de la marine et on a les gardes du pavillon qui sont un petit peu au-dessus. Il était gentilhomme du duc de Penthièvre, puis du duc d'Orléans, donc il était connu à la cour. Ce qui n'était pas le cas de la Pérouse. Embarqué très jeune, avec tout de suite des engagements militaires, était blessé gravement alors que il était tout jeune, souvent parti en Inde, etc., dans des campagnes lointaines, alors que Fleuriot de Langle a moins navigué, était plus connu donc à la cour, il avait un profil complètement différent d'une famille bretonne originaire du Trégorois, où tout le monde est effectivement dans la marine depuis fort longtemps, quelqu'un qui s'est intéressé très vite aux aspects scientifiques de son métier. C'est-à-dire qu'il faisait partie de l'Académie de marine, il a fait plusieurs communications savantes sur les horloges marines, sur la longitude, etc. Pas du tout le même profil que la Pérouse du point de vue de sa carrière. Mais je comprends effectivement qu'il était plus connu dans les milieux, si vous voulez, mondains de façon générale. Donc on pensait effectivement à lui. Il avait des relations, si vous voulez, que n'avait probablement pas la Pérouse. Bon, la Pérouse avait effectivement un amiral dans sa famille, effectivement. Mais c'est quand même un terrien. Il est originaire d'Albi, il y a peu de marins dans sa famille. Donc c'est un autre profil. Et du point de vue de la personnalité, ce sont des gens très différents, effectivement. Fleuriot de Langle. Alors là, vous parlez d'angoissé tout à l'heure. Moi, je le sens plus mélancolique, finalement, que la Pérouse. Bon, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Ce sont quand même des gens qui sont sur des postes d'autorité et qui savent que bon, ils n'ont pas le droit ni à l'erreur ni au découragement, mais on sent quand même une certaine nostalgie. Fleuriot de Langle, par exemple, parle constamment, il écrit à sa sœur. Il lui dit, tu prendras soin de la maison, tu feras ci, tu feras là. Bon, son esprit, son cœur sont en Bretagne, c'est clair et net. Il parle peu de ses compagnons de navigation. Il dit, les gens sont très aimables, etc. Mais ce sont plutôt des platitudes, si vous voulez, des généralités. Mmh. En revanche, il parle de façon très précise de tous les matelots embarqués avec lui qui sont du même pays. Donc il dit à sa sœur, tu diras aux gens de Tréguier que tout le monde se porte bien, que mes matelots vont bien et que j'utilise le blé qu'on a embarqué pour leur faire des galettes de façon à ce qu'ils mangent bien, etc. On s'occupe d'eux, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même un autre profil.
Donc une certaine attention quand même pour ces hommes, bien sûr.
Voilà, tout
c'était,
à fait.
C'était évidemment obligatoire, on l'imagine, hein, pour mener à bien ce type d'expédition. Catherine Gazziello, est-ce que on est le 1er août 1785, dans quel état d'esprit peut-on être à ce moment-là, puisqu'il faut peut-être souligner une chose, c'est que il n'y aurait pas d'équivalent aujourd'hui pour ce type d'expédition, pour en souligner l'ampleur, ce qu'elle représentait pour l'époque, et le fait de partir à la découverte de l'inconnu, comme ça a été le cas pour Fleuriot de Langle et la Pérouse.
Les premières navettes spatiales où on a embarqué où on a mis plusieurs personnes, effectivement, tous
horizons.
C'est
ça, il faut aller jusque-là.
Je pense qu'il faut aller jusque-là. C'est quand même un grand événement. Tous les gens qui sont partis ont été choisis ou étaient volontaires. Donc ils sont partis, ils étaient très contents.
Bon, c'était une distinction.
C'était une distinction. Oui, on avait d'ailleurs ce qui s'appelle trier sur le volet les matelots. Effectivement, on avait vraiment pris les meilleurs. On leur avait donné au point de départ une partie de leur solde. Donc ils étaient vraiment, même eux avaient vraiment été choisis, étaient volontaires, étaient contents de partir. Non, c'est un grand événement. Et puis il faut voir ce qu'est le monde à l'époque. C'est quand même une expédition de découverte. Bon, même si le monde est plus connu, mieux connu qu'il ne l'était à l'époque de Christophe Colomb, il y a quand même des blancs sur la carte.
On s'en va au bout du monde avec l'expédition La Pérouse en ce 1er août 1785. L'expédition part de Brest, direction alors le sud de l'Atlantique, le Cap Horn, l'île de Pâques, puis après on va traverser tout le Pacifique, on va longer Formose, remonter la Chine, le détroit de La Pérouse précisément,
oui.
Puis on va redescendre grosso modo vers l'Australie, puis en ce 15 mars 1788 de Botany Bay, la dernière nouvelle de La Pérouse. On aurait eu quand même des nouvelles à Petropavlovsk, parce que heureusement si je puis dire, là l'un des carnets de bord de La Pérouse va être débarqué avec un homme qui va traverser toute l'Eurasie pour le rapporter.
Oui, c'est le jeune Lesseps, une vingtaine d'années à
l'époque. Un nom bien connu.
Voilà. Alors ce n'est pas Ferdinand de Lesseps, c'est un de ses oncles finalement. Donc le jeune Lesseps, c'était le fils du consul à Saint-Pétersbourg, le consul de France à Saint-Pétersbourg. Donc il parlait le russe. Et comme on savait qu'on devait faire escale effectivement au Kamchatka, on a décidé d'adjoindre à La Pérouse un interprète de russe. Et donc ce jeune homme a été choisi pour accompagner La Pérouse. Et puis quand on est arrivé au Kamchatka, on lui a dit « Bon, écoutez, vous allez transporter nos paquets en France et vous allez prendre la voie de terre ». Donc il a d'ailleurs raconté le récit de son voyage où il a traversé toute la Russie depuis le Kamchatka jusqu'à Paris. Et tout le monde lui a dit au moment où il est parti, nous serons certainement arrivés avant vous. Et il a eu la surprise de voir qu'effectivement il était arrivé avant tout le monde.
Avec Monge, c'est le seul survivant autant que l'on puisse le savoir, bien
autant
sûr.
Autant qu'on puisse le savoir, oui. Un certain nombre de gens ont été débarqués, il y a eu des malades, etc. Mais essentiellement, ce sont eux qui sont les seuls survivants.
Grâce à Lesseps, on sait quand même beaucoup de choses.
Oui, on sait beaucoup de choses parce qu'il a rapporté une partie du journal de bord, d'abord. Il a rapporté des lettres, des cartes, plein de choses. Finalement, c'est une expédition où on a quand même des résultats, même si elle s'est perdue. La Pérouse a pris la précaution à chaque escale où il a rencontré des vaisseaux français. Par exemple, c'est le cas lorsqu'il est sur la côte chinoise, lorsqu'il est à Macao. Il rencontre effectivement, d'ailleurs, d'entre Castor et de passage à ce moment-là. Il rencontre la subtile. Donc
Les hommes vont se croiser?
Ils vont se croiser à ce moment-là.
Émouvant, puisque.
Mais oui, bien sûr.
Après, il partira à sa recherche.
Donc, quand il rencontre des vaisseaux français, il leur confie, effectivement, y compris des choses confidentielles. Il a confié, effectivement, à Lesseps un certain nombre de documents. Il lui est arrivé aussi de confier des choses à des étrangers, par exemple aux Anglais qu'il a rencontrés à Botany Bay. Ça a été une surprise parce qu'effectivement, il s'attendait à trouver une côte complètement déserte. À l'époque, c'était le premier débarquement de colonies pénitentiaires sur la côte de l'Australie.
On est près de Sydney.
Voilà, on est près de Sydney et c'est la fondation de l'établissement de Botany Bay et donc de Sydney après qui se fait à ce moment-là. Donc La Pérouse, quand il arrive, voit des vaisseaux à l'ancre, il est très surpris et il voit effectivement que ce sont les Anglais. Donc il a confié un certain nombre de choses aux Anglais, mais on ne confiait pas tout effectivement aux étrangers, même les Espagnols avec qui on était censé être alliés, on leur confie pas systématiquement tout, y compris des choses assez confidentielles.
Mais on se croisait beaucoup comme ça sur les mers?
Oui, parce que les routes en mer, comme les routes dans les airs actuellement, il y a des routes obligées, si vous voulez. Hein. Donc, on prend pas n'importe quelle route. Les Espagnols étaient bien connus pour avoir des routes bien où ils suivaient les alizés très régulièrement, de façon à ils s'éloignaient pas de leur route. Donc, les routes de navigation sont bien connues. Et puis là, quand on les points de relâche aussi sont bien connus. Il n'y en avait pas 36. Ce sont les mêmes que ceux de Cook, par exemple, en Australie. Donc, il n'y a que dans les zones où effectivement on n'avait pas suffisamment exploré pour savoir où on allait qu'on risquait pas de rencontrer grand monde. Mais là quand même, on arrivait à se croiser, oui.
Point par point, la Pérouse a suivi le trajet qui était prédéfini ?
Non, il n'a pas suivi. Il avait la liberté, s'il estimait des changements nécessaires, de le faire. Donc ce qu'il a fait, et ce qui était intelligent, ça paraît de bon sens, c'est qu'il a inversé les opérations. C'est-à-dire qu'il devait passer à la fin sur la côte nord-ouest de l'Amérique. De façon à explorer ce que Cook n'avait pas eu le temps de faire. Et puis il est allé à Tenerife, puis Madère. Ensuite il a doublé le Cap Horn sans difficulté, ce qui était exceptionnel à l'époque. Donc il s'est arrêté sur la côte du Chili. L'île de Pâques, ça c'était une recommandation de Louis XVI, l'île de Pâques. Il s'est arrêté très peu de temps, quelques heures à l'île de Pâques.
Pourquoi Louis XVI y tenait particulièrement?
Parce qu'il voulait qu'on examine effectivement les monuments de l'île de Pâques, ainsi que les indigènes qui étaient des gens intéressants, voilà. Et ensuite, bon, il est passé par les îles Hawaï, et puis il a décidé à ce moment-là d'inverser les opérations, c'est-à-dire au lieu de faire tout de suite la côte de la Chine, etc., il a préféré remonter tout de suite tout en haut de la côte nord-ouest de l'Amérique, qu'il a redescendu jusqu'en Californie, jusqu'à Monterey, où il a fait escale dans la mission des franciscains, où il a d'ailleurs été très bien accueilli. Donc c'est le premier désastre de l'expédition, effectivement, sur la côte nord-ouest de l'Amérique. Un désastre que rien ne laissait présager, c'est-à-dire lors d'une petite exploration de la baie où ils étaient installés, qui était juste pour compléter la carte qu'on avait faite pour sonder la baie. On a envoyé les deux biscayennes, c'est-à-dire les deux grosses chaloupes de la baie de Biscaye, si vous voulez, et le canot de la boussole pour aller sonder la baie. Et les officiers qui étaient là ont dit, bon, on va en profiter, il fait beau pour pique-niquer. Donc c'était tout à fait... Bon, les ordres de l'officier qui commandait l'expédition étaient tout à fait clairs. On lui a dit, s'il y a le moindre danger, vous revenez, puis c'est tout. Et il ne s'est pas méfié, la baie est fermée par un goulot très étroit. Et le retour de la marée crée un courant très très violent qui a entraîné d'abord la première biscayenne qui a fait naufrage. Alors la deuxième biscayenne qui était commandée par un très jeune officier qui était le fils d'un fermier général, qui était un personnage qui était effectivement très connu dans les milieux mondains et financiers de l'époque, qui était le marquis de la Borde. Donc il a voulu porter secours à ses camarades, donc il a foncé derrière et lui aussi a connu le même sort. Et comble de malchance, il avait pour la première fois dans l'expédition eu l'autorisation d'embarquer avec lui son jeune frère qui était également officier de marine, donc les deux fils là-bas se sont tués en même temps. Triste histoire.
Là, c'est la nature qui s'est déchaînée.
Voilà. Mais c'est véritablement une imprudence probablement de celui qui a commandé l'expédition. Donc le canot de la boussole a compris le danger quand il a vu la deuxième biscayenne engagée, donc ils sont revenus raconter ce qui s'était passé. Et la Pérouse, ça a été la première catastrophe de cette expédition, et encore une fois, c'est un coup de malchance. On peut dire que c'est un coup de malchance.
On s'aventurait dans les terres un peu ? Difficile.
On a exploré le port des Français à la côte nord-ouest de l'Amérique, effectivement, parce qu'il y avait toujours cette idée qui traînait dans les têtes des cartographes du fameux passage du nord-ouest. Donc, quand on a vu cette baie très très profonde, qui est en fait, il y a un ancien glacier. Il y a un glacier d'ailleurs, carrément. Donc, on a fait tout le tour de ce port et on a essayé de voir s'il y avait un passage, mais effectivement, il n'y en a pas.
Ce sera
donc
la seule fois.
On s'aventurait effectivement. Non, ce n'est pas la seule fois. Bon, par exemple, faire l'excursion au pic de Tenerife, ça faisait partie des choses qu'on faisait. Mais même au Kamchatka, puisqu'ils ont séjourné quand même un certain temps au Kamchatka avec un accueil particulièrement cordial des Russes, ils ont fait effectivement une expédition à l'intérieur des terres avec des guides russes. pour explorer les, pour aller sur les pentes d'un volcan et voir ce qu'ils avaient comme échantillons de roche, comme végétation, etc. Savants, officiers de, etc. La Pérouse n'était pas trop pour la marche à pied, c'était pas trop son truc. Et puis, les expéditions avec les mules et les chevaux, c'était pas non plus un cavalier, je pense. Donc lui, il les avait laissés partir en leur disant si vous voulez y aller, d'accord. Donc ils ont fait cette exploration qui était assez difficile. Il y a plusieurs volcans au Kamchatka. Donc là, les pentes étaient assez rudes. Il faisait pas très beau. Il y avait des brumes épouvantables. Et les guides leur ont dit vous pouvez continuer, mais vous savez, ça porte malheur, etc. Et puis, ce que raconte la Pérouse avec pas mal d'humour, il dit qu'effectivement, ils sont redescendus assez tard, gênés par les brumes et les difficultés de l'escalade, et que les guides, pensant les tenant pour morts, avaient fini leur provision d'alcool. Donc, quand ils sont arrivés, effectivement, ils ont trouvé les guides ivres morts, donc ils n'étaient pas très contents. Et puis, quand ils sont rentrés, les Russes ont dit mais c'est un scandale, on va les faire battre. Ils ont dit non, non, laissez tomber, c'est pas trop grave, l'essentiel, c'est que nous ayons réussi à rentrer. Donc il faisait de temps en temps des expéditions de ce genre. Souvent les savants et les jeunes des officiers, parmi les officiers, c'était une occasion aussi de donner des renseignements complémentaires, de faire le travail des savants. C'est impossible de faire, sauf pour les astronomes, c'est très difficile pour un botaniste de faire du travail à bord, sauf classer ses collections. Donc dès qu'il pouvait en profiter pour aller à terre, il le faisait. Mais souvent c'est très difficile dans des zones qui n'ont jamais été explorées ni rien. Ce sont des étendues impraticables où la forêt est très profonde, des prairies très hautes, on n'avance pas facilement.
Il fallait quand même être sacrément intrépide. Hein,
oui, même, hein. Oui, oui. C'est ce que dit la Pérouse d'ailleurs. Il dit que pour certains, il les trouve bien, bien aventureux. Mais enfin, bon, ne partez pas sans précaution.
À la même époque, c'était la conquête du Mont Blanc, hein, 1786. C'était le même esprit. Hein.
Oui, tout à fait.
Un esprit quand même d'aventure avec lequel on trouve peut-être assez peu d'équivalent quand même aujourd'hui, compte tenu du risque que ça représentait sur ces terres inconnues. Si la Pérouse avait changé l'ordre de son voyage, ça aurait changé, on imagine évidemment, son destin. Difficile à dire.
Pas sûr, c'est difficile à dire. Quand on reprend le plan de départ, effectivement, je pense que c'était un trajet beaucoup trop compliqué, avec des routes beaucoup trop difficiles. Et puis, c'était encore une question de bon sens. Il savait que les mers du nord-ouest de l'Amérique étaient des mers difficiles. Il valait mieux les aborder à une meilleure saison. Et il valait mieux le faire quand tout l'équipement était encore neuf, c'est-à-dire quand on a des bonnes voiles, de bons gréements, quand on a un équipage pas trop fatigué, en bon état physique. Et d'ailleurs, ça a été une période où ils ont pas mal souffert. Effectivement, la navigation a été difficile, avec beaucoup de brume, beaucoup d'humidité, donc il fallait faire attention à l'état de santé de l'équipage. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait que ça aurait changé les choses.
Il y a eu un
peut-être
certain...
que les catastrophes seraient arrivées plus tôt.
Il y a eu un certain relâchement une fois arrivé dans les mers du Sud.
Je pense que jusqu'à la première catastrophe du port des Français, ils étaient, ils n'ont pas été imprudents, mais ils étaient assez décontractés. Tout s'était passé de façon si merveilleusement simple et sans accroc, sans incident. Ils ont doublé le Cap Horn sans difficulté alors qu'ils s'attendaient à en avoir. Ils ont été chaque fois bien accueillis, ils étaient tous en parfaite santé. Tout marchait très bien. Et même l'accident du port des Français sur la côte nord-ouest de l'Amérique ne les a pas fait changer d'avis, parce que c'était vraiment un accident malheureux dû vraiment probablement à l'imprudence de l'officier qui commandait, mais il n'y avait pas de raison, si vous voulez, de craindre quoi que ce soit. La deuxième des catastrophes de l'expédition aussi, elle a eu lieu à un moment donné où ils étaient un peu fatigués, effectivement, puisque lorsqu'ils sont arrivés aux îles Samoa, effectivment, ce qui s'est passé, c'est que Florian Lang, qui...
Alors là, ce n'est pas la nature.
Ce n'est pas la nature. Mais je pense que ça ne leur a pas non plus servi trop de leçon, parce que Florian Lang a insisté en disant les gens sont à peu près en bon état, mais je pense qu'il faut que nous ayons de l'eau fraîche. La Pérouse a dit l'eau que nous avons à bord me paraît en excellent état, c'est pas forcément nécessaire, le mouillage n'est pas très bon, moi j'aimerais mieux qu'on s'en aille assez rapidement. Les échanges jusqu'à présent s'étaient bien passés avec les indigènes. Et Florian Lang a énormément insisté, et la Pérouse a cédé. Je pense que Florian Lang s'était penchée sur tous les aspects scientifiques, etc. Et que donc, là-dessus, la Pérouse lui laissait assez carte blanche. Puis bon, au bout d'un certain temps, quand même, on décide. Et là, il a laissé faire. Donc, il est parti faire cette corvée d'eau. Et puis, il s'est rendu compte, quand il est arrivé, que en fait, il avait mal mesuré la marée et que à marée basse, ses chaloupes se sont trouvées échouées. Puis il a trouvé en arrivant qu'il y avait beaucoup d'indigènes autour de lui. Puis les gens sont devenus de plus en plus nombreux, de plus en plus nerveux. Donc au bout
ils
d'un
ont
moment,
essayé de les amadouer.
Voilà. Et puis au bout d'un moment, il a vu qu'il n'y arrivait pas. Donc il a tiré en l'air, ce qui a été le signal de la catastrophe.
Et le début
donc,
de la fin.
Ils se sont fait massacrer. Voilà. Mmh. Et donc les chaloupes n'ont pas pu partir. Heureusement, le canot qui était ancré un petit peu plus loin, lui était à flot, donc ils ont pu repartir et il y a eu quelques survivants. Mais là encore, on pouvait mettre ça sur le compte d'un accident malheureux, parce que Florio de Lange n'avait pas peut-être mesuré n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires.
C'est quand même un coup très rude à ce moment-là.
Oui, c'est un coup très rude parce que d'abord c'est vraiment un ami personnel pour la Pérouse, quelqu'un en qui il avait toute confiance. C'est quand même le commandant du second navire. La Pérouse s'est sentie en faute, on peut dire, parce qu'il avait cédé à l'avis de Florio de Lange. C'était pas son sentiment, mais il avait quand même accepté et cédé là-dessus. Florio de Lange l'avait embarqué avec lui un certain nombre de malades à qui il pensait que le fait de participer à cette petite expédition ferait du bien, en particulier la Manon, un des savants. Donc la Pérouse s'est vraiment sentie impliquée personnellement, et puis il avait perdu, il avait à faire le deuil d'un ami très cher et de quelqu'un qui était le commandant du second navire. Bon, en plus, il faut voir à quel moment ça se passe. On a quand même déjà pas mal de, on a plus d'un an de navigation, presque deux ans de navigation derrière. Tout le monde est fatigué.
Il aurait fallu rentrer à ce moment-là.
Non, parce que la Pérouse est quelqu'un qui respectait les engagements qu'il avait pris. Il avait une mission. Il n'avait pas terminé ce qu'il avait à faire. Il avait fait l'essentiel, la côte nord-ouest de l'Amérique, mais il lui restait encore à explorer autour de l'Australie, puisque toute une partie de la côte sud de l'Australie était inconnue. Elle est encore en pointillé sur la carte. Même Cook n'avait pas tout exploré. Il lui restait aussi à faire la boucle du côté de la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie.
La mission n'était pas accomplie.
La mission n'était pas finie.
La statue de Condorcet, ici même, juste en bas, Canal Academy, Paris, mais nous sommes en Australie, avec Monsieur de la Pérouse, son expédition en mars 1788 à Botany Bay. Il restait encore des choses à accomplir, hein. C'est pour cela qu'il n'est pas rentré, et on sait, vous l'avez démontré, Catherine Gazziello, dont je rappelle que vous êtes responsable de la médiathèque de Poitiers, que vous êtes la seule historienne à avoir écrit une thèse sur la Pérouse. Il restait une mission à accomplir, et il a toujours accompli ses missions, il fallait y aller. Mais alors, en ce 15 mars 1788, on perd le fil, maintenant.
La dernière lettre, effectivement, est du début de l'année, 1788, où il dit à Fleurieux, après lui avoir dit « que de malheur à vous annoncer », il lui dit « nous avons encore des choses bien intéressantes à faire ». Donc, il est reparti, et bon, ben, on l'attendait effectivement pour juillet 1789, il n'est toujours pas arrivé, et en 91, on décide effectivement que là, on les porte disparus, on envoie une expédition pour essayer de les retrouver, l'expédition d'Entrecasteaux. Donc d'Entrecasteaux fait une expédition qui a eu beaucoup de malheurs, qui part en pleine révolution quand même, et qui découvre un certain nombre de choses, mais rien en ce qui concerne la Pérouse. Il croise à proximité de l'île où nous, plus tard, on trouvera effectivement des restes de l'expédition de la Pérouse, mais il ne débarque pas sans qu'on arrive à savoir exactement pourquoi ils n'ont pas débarqué, mais peut-être que les conditions n'étaient pas faciles. Donc l'île de la Découverte, qu'il voit de loin, et l'île Vanikoro, il la voit de loin, il voit qu'il y a des feux, donc il y a des gens, mais c'est tout ce qu'il voit, et il s'éloigne, il repart. Après, bon, on n'en entend plus parler. Jusqu'à ce qu'on trouve, c'est Peter Dillon, qui est un navigateur d'origine anglaise,
40 ans plus tard,
qui trouve entre les mains d'un indigène de l'archipel de Santa Cruz, il trouve une arme qui est visiblement de fabrication française, etc. Et il en déduit que c'est très probablement des restes de l'expédition de la Bérouse. Tout ça est connu en France, donc on se dépêche d'envoyer Dumont d'Urville pour aller voir ce qu'a trouvé Peter Dillon. Et c'est Dumont d'Urville qui, effectivement, trouve le lieu du naufrage à Vanikoro. Donc, à partir de l'expédition de Dumont d'Urville, donc on sait ce qu'ils étaient devenus, on recueille des témoignages oraux des indigènes qui laissent à penser qu'une partie de l'une des équipages ont trouvé refuge sur l'île de Vanikoro, qu'ils y sont restés un certain temps. Alors là, les traditions divergent. On dit que certains sont repartis, ont fabriqué un petit navire et puis sont partis avec. Alors là, est-ce qu'ils ont été massacrés par les indigènes en franchissant la passe, ou bien est-ce qu'ils se sont perdus en mer? Ça, on ne sait pas trop. Et les indigènes disent qu'ils sont restés un certain temps d'abord, et que deux des Français sont restés sur place et sont morts de leur belle mort, en quelque sorte, dans l'île.
Plusieurs indices donc concourent à la thèse qu'il y a eu des survivants. Alors on ne sait pas si c'est la Pérouse, probablement pas, puisque sans doute que son bateau s'est fracassé de manière très violente.
C'est ce qu'on pense. Mais de toute façon, les deux vaisseaux étaient toujours à proximité l'un de l'autre. Mais un des deux, probablement, s'est fracassé très vite, n'ont pas eu le temps de se sauver, ou très peu de gens. Et l'autre, en revanche, s'est encastré dans la passe de Corail. Et donc, ils ont eu le temps, probablement, de débarquer un certain nombre de choses. Donc, ce qu'on a découvert après, c'est qu'on a fait des plongées sur le lieu du naufrage dans les années 60. Donc, on a remonté un certain nombre de gros matériels, les canons, par exemple. On a retrouvé la cloche de la boussole, qui appelait l'équipage. Et ensuite, il faut vraiment attendre les expéditions récentes qui ont permis de faire vraiment des découvertes qu'on n'avait jamais faites jusqu'alors, c'est-à-dire d'identifier formellement laquelle des deux épaves est celle de la boussole et laquelle des deux est celle de l'astrolabe.
Parce que ça, c'est tout récent.
C'est tout récent. Et d'autre part, les deux dernières expéditions qui sont toutes récentes, ont apporté quand même des traces à terre, ce qu'on n'avait jamais trouvé jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a retrouvé les traces d'un camp retranché, ce qui prouve bien que les Français ont bien débarqué dans l'île, sont restés un certain temps. On ne fait pas un camp retranché si on n'a pas les moyens de le faire, si on n'a pas un certain nombre de haches, de matériel, etc. Donc on a trouvé des témoignages et je pense qu'il y a encore des tas de choses à trouver.
Quand on est marin, qu'on ressemble à Robinson Crusoe comme ça, est-ce qu'on n'a pas envie de repartir ?
Moi je crois que de toute façon on a envie de rentrer chez soi.
On fabrique un radeau, c'est aussi bien sûr l'une des thèses,
oui,
un bateau.
Absolument. Il y avait du bois sur l'île de toute façon. Il y avait du bois sur l'île et s'ils ont réussi à construire un camp retranché, ils avaient les moyens de construire une embarcation.
Et là, c'est toute l'énigme encore.
C'est une question de logique. Ça, il reste encore des choses à découvrir, très probablement. On a découvert aussi, il y a quelques années, un instrument scientifique qu'on a retrouvé et qui était en Nouvelle-Calédonie. Ce qui a l'air de prouver qu'ils ont dû toucher à la Nouvelle-Guinée ou la Nouvelle-Calédonie avant de se perdre à Vanikoro. Ce qui est, si on reprend les instructions de la Pérouse, ce qui était prévu. Donc, il n'est pas impossible qu'on ait pas de traces écrites, si vous voulez, ni rien du tout, puisqu'on n'a pas perdu toute trace écrite et tout contact avec eux. Mais il n'est pas impossible qu'ils aient continué dans ce sens-là et que, effectivement, ce soit tout ce qu'on sait d'après les indigènes et qui est à peu près sûr, c'est qu'ils se sont perdus une nuit de tempête, ce qui paraît logique. Ça a failli leur arriver une autre fois, mais c'était par temps calme. Ils ont entendu, la vigie a entendu les vagues sur des brisants et ils ont vu effectivement qu'il y avait des rochers qui affleuraient et si ça n'avait pas été par beau temps, ils auraient certainement fait naufrage.
Vanikoro, une île infernale, hein, ce n'est pas du tout l'île paradisiaque du Pacifique. C'est couvert de végétation, il pleut tout le temps. Et d'ailleurs, l'expédition a eu quand même pas mal de mal, que ce soit l'expédition de recherche aujourd'hui sur les traces de la Pérouse, ou évidemment la Pérouse lui-même pris dans ce cyclone. C'est quand même un temps exécrable là-bas. Hein. Ce n'est pas
du
tout
et Dumont d'Urville a eu beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'il n'a pas pu faire tout ce qui était prévu. Et il explique qu'il avait tellement de mal d'abord, à cause du climat malsain, l'humidité constante, etc., qu'il a eu toutes les peines du monde à repartir de Vanikoro.
Donc déjà,
déjà.
Rien que pour une expédition qui partait déjà à la recherche et qui savait à peu près dans quelle région elle arrivait, c'était déjà difficile.
C'était déjà très difficile.
Le scorbut, la hantise, bien sûr, de tous les marins de l'époque.
Oui, ils avaient pris des précautions, effectivement, pour le scorbut. D'abord, ils avaient un certain nombre d'études de médecins qui avaient été faites et ils avaient suivi de très très près les instructions de Cook qui expliquaient ce qu'on prenait comme précaution pour le scorbut. On confondait un peu à l'époque acidité et antiscorbutique, effectivement. Mais bon, Cook avait vraiment prouvé que la nourriture fraîche est très importante. Les oranges, les citrons, ça c'est très important aussi. Et donc, c'est la Pérouse était astreint à faire ça. Il avait aussi beaucoup insisté sur l'aération du pont et veiller à ce que les gens aient vraiment une hygiène de vie, qu'on fasse sécher les vêtements, qu'on évite de les laisser dans l'humidité, etc. Quelques petits signes de scorbut à la fin de l'expédition, effectivement, se voient, mais très très peu. Finalement, il y a un officier qui meurt effectivement de maladie, dysenterie essentiellement, mais on pense que c'est parce que il s'était soigné lui-même en dépit du bon sens.
Quand on apprend la disparition de l'expédition 1791, c'est la révolution en France. Grosso modo, les révolutionnaires, quelles seront leur attitude? Plutôt conscients, ils étaient conscients de l'importance de cette expédition, ou bien par rancune envers la monarchie, ils ont traîné un peu les pieds?
Je pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que les préoccupations politiques et les conflits politiques ont empoisonné l'expédition d'Entregasteaux. Il y avait des clubs même à bord. Donc, comment voulez-vous maintenir le cap alors que vous avez... Bon, il faut quand même qu'il y ait un commandant à bord et pas 36 et qu'on discute pas toutes les décisions, etc. Donc ça, certainement, c'était pas leur préoccupation majeure et ça a finalement tourné à une expédition qui avait aussi des buts scientifiques puisqu'il y avait des savants à bord. Il y a eu aussi le fait que d'Entrecasteaux est mort en cours d'expédition. Bon, il y a eu beaucoup de malheurs à cette expédition, ce qui explique, à mon avis, qu'il n'ait pas poussé plus loin ce qui était le but premier, c'est-à-dire retrouver la Pérouse.
Alors deux questions pour finir, un peu larges peut-être ces questions, c'est ce que laisse la Pérouse, cette expédition la Pérouse dans l'histoire. D'abord, les traces de la Pérouse aux endroits où ils sont passés ces membres de l'expédition. Est-ce qu'aujourd'hui on garde en mémoire le souvenir de la Pérouse à Macao, à Monterrey?
On le garde à certains
moments. Bien, c'est très évanescent.
Non, je trouve que c'est encore très vivant, effectivement. Bon, récemment, j'ai rencontré une Australienne, effectivement, qui m'a parlé du souvenir de la Pérouse encore à Sydney. Bon, ce sont des choses qu'on a cultivées. Je pense que le mystère de la Pérouse, le fait aussi, sa personnalité, toute cette histoire continue à nourrir l'imagination et l'envie d'en savoir plus, effectivement. Je pense qu'on peut encore en savoir plus.
On peut encore en savoir plus, y compris les jeunes générations. Vous sentez qu'elles accrochent sur ce type de sujet?
Oui, moi je crois, parce que c'est quelqu'un qui est très proche de nous. Enfin, il y a une spontanéité et une humanité chez lui dans sa correspondance, dans ses lettres, dans ce qu'il dit, même dans son récit de voyage, qui fait qu'on peut se sentir proche et retrouver. De toute façon, les êtres humains ne changent pas fondamentalement, je pense.
Trace dans les esprits, trace dans la mémoire scientifique, parce que... Est-ce que la science a vraiment profité de cette expédition? Qu'est-ce qu'elle a laissé, cette expédition, dans notre bagage intellectuel scientifique?
Bon, elle a laissé pas grand-chose. Si vous voulez, la seule vraie découverte de la Pérouse, c'est la découverte du détroit entre Sakhalin et l'île la plus septentrionale du Japon. C'est le détroit de la Pérouse.
C'est le détroit de la Pérouse.
Ceci dit, il y a un certain nombre de complétudes de la carte, quand même, qui viennent de la Pérouse. Je pense que c'est essentiellement ça qu'on peut dire comme résultat scientifique. Bon, il y a un certain nombre de choses aussi. On a rapporté des échantillons de plantes, ça on pouvait pas, mais un certain nombre de dessins, de choses comme ça, de connaissances aussi. Je pense qu'on peut aussi exploiter davantage le récit de la Pérouse, les récits qui sont faits pour les études d'anthropologie, parce que ce sont quand même des zones qui sont peu connues pour cette époque.
Et sur le plan astronomique?
Sur le plan astronomique, à mon avis, on a fait la preuve, mais on l'avait déjà faite juste avant avec l'expédition de l'Isis, par exemple, qui était une expédition scientifique. On a fait la preuve que les horloges marines fonctionnaient parfaitement bien. Donc le problème de la longitude était résolu, que donc on pouvait faire une cartographie valable à partir de ce moment-là. Bon, après, effectivement, ça n'a plus été un problème.
Merci beaucoup, Catherine Gazzello, de nous avoir fait aimer la Pérouse, d'avoir raconté son histoire, cette expédition qui s'est tragiquement terminée. La Pérouse, s'il fallait retenir une date, ce serait laquelle que vous retiendriez spontanément dans sa vie?
Dans sa vie? Oh, je ne sais pas, je pense que c'est son retour de la baie d'Hudson, juste avant, parce que pour lui c'était très important. D'abord c'était un franc succès, et ensuite il a pu après, juste après, se marier avec...
Et sa femme, que deviendra-t-elle?
Voilà. Ben, sa femme est restée seule, elle a attendu, s'est beaucoup consacrée à la famille de la Pérouse, puisqu'elle n'avait pas eu d'enfant. Et le nom de la Pérouse a été repris, effectivement, par les descendants de ses sœurs.
Catherine Gazziello, merci beaucoup.
Anne Sotti de Chalon recevait dans Un jour dans l'histoire Catherine Gazziello, responsable de la médiathèque de Poitiers. Le sujet, Monsieur de la Pérouse, l'expédition de Monsieur de la Pérouse.